Ok, merci Mathias. Est-ce qu'on fait les questions plus tard ou... Alors, on a 3 minutes par session, parce que c'est des lightning talks, on n'a pas beaucoup de temps. Mais si quelqu'un a... Donc, on fait 3 minutes de questions par talk seulement. Et si vous avez des questions déjà ouvertes, le pad, vous pouvez les poser maintenant. Donc pour poser les questions, on a différents moyens de contact qui sont listés sur notre site web, notamment des messages instantanés. Vous pouvez nous contacter par visio, donc en discussion instantanée par voix et caméra. Vous pouvez couper la caméra si vous n'êtes pas à l'aise. Donc le prochain présentateur, c'est Moritz. J'espère que vous pouvez m'entendre. Ouais, super. Et on a même l'image. Excellent. Alors, je me vois pas, donc je sais pas si ça a l'air bien, mais on va essayer. Donc bonjour à tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un projet sur lequel je travaille depuis un moment. Et c'est un problème assez typique qui implique des clés de chiffrement pour pardon, qui utilise des clés et des verrous dont on s'est servi pour le contrôle d'accès à notre hackerspace à Berlin. Malheureusement, il semblerait que le stream ne marche plus. Nous attendons donc que le stream revienne pour la suite de la présentation. Alors, on nous dit à l'instant que le VOC est sur le coup pour rétablir le stream. On va toujours attendre que le stream revienne. Bonjour le VOC, est-ce que le stream est de retour? Alors, on dirait qu'on a un stream à nouveau. Ok, le stream est donc de retour. Alors, je ne sais pas pourquoi le stream s'est arrêté, mais revenons à ce que je disais avant. Donc, nous avons développé une application au sein de l'Open Lab. Cette application n'était pas idéale. Elle marchait bien pour nous. L'ensemble des features n'était pas forcément mauvais, mais la configuration, l'import et l'export de clés pour les téléphones n'était pas forcément très utilisable. On n'avait pas non plus le support du Bluetooth. Donc ça, c'était un problème d'utilisabilité pour les gens qui voulaient rentrer dans notre hackerspace. Et j'ai vu que d'autres hackerspaces avaient le même genre de problème. Et donc, ça a été la première application que j'ai créée et elle a marché plutôt bien. Et cette application a grossi avec le temps. Donc maintenant, elle supporte plusieurs types de contrôle d'accès. Ce que c'est essentiellement, c'est un verrou électronique pour l'accès à un hackerspace. C'est quelque chose que j'ai implémenté il y a une semaine ou deux. On a donc maintenant une application que vous pouvez installer sur téléphone. Et si vous avez par exemple un Raspberry Pi et que vous voulez contrôler un périphérique comme par exemple le verrou d'une porte avec, c'est tout simple. Au niveau fonctionnalité, on n'a pas encore tout ce qu'on voudrait, mais ça marche, ce qui est déjà important. On a aussi inclus des fonctionnalités comme par exemple une sonnette directement depuis l'application, ce qui permet de signaler qu'on est à la porte et qu'on voudrait qu'elle soit ouverte. Alors, il existe bien sûr des options commerciales avec énormément de fonctionnalités qui coûtent parfois des dizaines de milliers d'euros, mais en fait, il s'avère que c'est plus simple d'écrire quelque chose sur un Raspberry Pi et d'utiliser une application toute simple sur téléphone, plutôt que de devoir acheter de l'équipement professionnel qui coûte très cher et pour lequel l'intégration n'est pas forcément plus simple au final. Personnellement, je suis fan de l'open source qui a motivé ce projet et c'était très intéressant de travailler sur un projet comme ça. Tout le code est disponible sur GitHub. Si vous voulez ajouter des fonctionnalités, c'est complètement ouvert et libre. Et ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir faire croître ce projet pour en rendre quelque chose de plus grand, de plus gros et qui aura plus de succès. Donc merci et j'espère que vous allez regarder ce que j'ai fait. Et voilà, si vous voulez travailler dessus, bah, contactez-moi. Merci pour la présentation, c'était très intéressant. Donc, on attend des questions. Alors, première question. Ah, pardon, prochaine présentation par Félix. Donc, bonjour, je suis Félix, je viens de Berlin. Donc, je vais vous parler du site que j'ai lancé. On fait donc des masques pour le visage. Notre site s'appelle Masken Berlin, les masques de Berlin. Donc, on a typiquement des masques en tissu, et je voudrais expliquer ce qu'on fait et pourquoi. Et je voudrais parler aussi de ce qui se passe, ce qui s'est passé quand on a commencé à faire de la production de masques en grande quantité dans notre hackerspace. Donc, on a ces masques que vous pouvez imprimer vous-même. Vous pouvez aussi utiliser une découpe laser pour fabriquer les pièces très rapidement. Donc, si vous avez une imprimante 3D que vous voulez essayer, je vous invite à imprimer nos modèles de masques. On a dans notre hackerspace 24 imprimantes 3D qui travaillent à l'heure actuelle à fabriquer des masques. Alors, malheureusement, les imprimantes 3D n'impriment pas énormément de masques, déjà parce que il y a beaucoup de pièces à fabriquer. On a seulement 3 personnes et on essaye de travailler non-stop, donc 24 heures sur 24. À l'heure actuelle, il y a des problèmes à cause de ça, mais tous les jours on travaille sur ce projet et tous les jours on améliore notre production. Donc, parfois quand on a des problèmes, on doit changer les modèles, on doit éteindre les imprimantes, recommencer l'impression de zéro et voir si ça marche mieux. C'est assez coûteux d'opérer 24 imprimantes en continu et d'utiliser tout le plastique pour fabriquer ces masques. Mais on pense que c'est une initiative qui vaut le coup. On pense que c'est quelque chose d'important. On a aussi reçu pas mal de donations d'autres personnes. Mais on a des contraintes sur comment est-ce qu'on peut imprimer, et donc malheureusement, on ne peut pas prendre toutes les donations de matériel, par exemple. On a aussi la question de est-ce que le plastique utilisé pour l'impression peut être utilisé et désinfecté, et si oui, comment? Dans certaines imprimantes 3D, on a parfois des masques qui sont imprimés, qui sont pas forcément complets et qui se cassent un peu trop facilement. Par exemple, on a des modèles par extrusion dans lesquels certaines imprimantes nous donnent des modèles qui ont tendance à mal marcher si c'est pas des imprimantes haut de gamme. Donc ça, c'est un problème sur lequel on travaille à l'heure actuelle et on essaye de changer notre processus de fabrication pour qu'il marche à plus grande échelle, puisqu'à l'heure actuelle, il ne marche qu'à moitié, honnêtement. Donc on a déjà résolu des centaines de petits problèmes, mais chacun de ces problèmes a un coût en temps et un coût financier, et on a malheureusement souvent sous-estimé le temps que ça prendrait d'imprimer énormément de masques comme ça. On a aussi des problèmes de coordination, puisqu'on n'est que 3 personnes et qu'on essaie de travailler 24 heures sur 24. Il faut coordonner qui s'occupe de quelle machine quand, de qui est disponible quand. On a commencé par regarder divers modèles de masques qu'on pouvait trouver en ligne. On les a comparés, on a fait des listes de pour et de contre sur chacun de ceux-là et on a fini par se standardiser sur un modèle. Donc, je recommande de faire ça si vous voulez produire des masques en grande quantité. Concentrez-vous sur un modèle et résolvez les problèmes de ce modèle. N'en faites pas plusieurs. Dans notre cas, on travaille dans un espace assez limité sur des petites imprimantes de 8 cm par 8 cm par 8 cm. Donc, on a été limité dans certains modèles qui avaient l'air plus intéressants, mais qu'on ne pouvait pas faire malheureusement. Une des contraintes qu'on avait également était au niveau de l'usure des moteurs. On voulait des modèles qui soient plus faciles à imprimer. Et aussi une question de temps de production. Donc, pour fabriquer des masques de visage, pour protéger le visage contre les postillons, etc., je recommande un cube de 8x8x8. C'est un espace de travail suffisant. 8 cm, bien sûr. C'est suffisant, mais pas pour tous les modèles. Donc, regardons maintenant si nous avons des questions. Une première question était, est-ce qu'on imprime en 0,8 mm d'épaisseur de fil? Alors, les Ultimakers, les imprimantes Ultimakers qu'on utilise ont des problèmes. Alors, même si c'est les imprimantes les plus chères qu'on a dans notre hackerspace, malheureusement, on a regardé ce qui était faisable, notamment est-ce que c'était possible d'imprimer avec ce genre d'épaisseur, et on a conclu que non, c'était pas possible. On n'a pas d'autres questions dans le pad, mais j'ai une autre question pour toi. J'ai essayé, moi, d'imprimer des choses en 3D, d'imprimer des masques en 3D, et j'ai trouvé ça très frustrant. Après deux masques, mon imprimante a juste jeté l'éponge. Et j'ai été plutôt impatient quand ça ne marchait pas. Donc, l'impression 3D de masque, c'est quelque chose de très lent. Et est-ce qu'il y a moyen de rendre ça plus rapide? Tu as dit qu'il y avait des chercheurs à l'université qui travaillaient sur ce problème-là. Est-ce que dans leur recherche, pour utiliser notamment de la découpe laser, est-ce que ça marchait mieux? Alors oui, on a des gens qui font de la recherche à l'heure actuelle sur la production de masques en masse avec de la découpe laser. On n'a pas trop cherché de ce côté-là, nous, puisque on s'est surtout intéressé au moulage par injection, ce qui nous a permis de produire quelques milliers de pièces rapidement. Puisque en impression 3D, on peut faire peut-être maximum 200, mais par contre, en injection moulée, ils peuvent faire des milliers de pièces par jour. En découpe laser, c'est les matériaux qu'on utilisait n'avaient pas de pièces qu'on pouvait découper au laser. Les porte-masque qu'on voulait imprimer ne pouvait pas être découpé au laser. Alors, si vous voulez aider cette initiative, rejoignez notre site maskenberlin.org, maskenberlin.org. Donc, merci pour cette présentation. Si vous voulez en savoir plus, recherchez Exheim, et ça vous donnera le site web. Merci beaucoup. Ok, maintenant c'est mon tour. Alors, en tant quand j'étais un jeune adulte, mon premier emploi, ça a été je déteste la couture presque autant que je déteste devoir remplir ma déclaration d'impôt. Mais alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre que de la couture pendant la crise du coronavirus? Donc, plutôt que de coudre, puisque j'aime pas ça, je me suis dit je vais peut-être faire de la modélisation 3D. Et donc, ça m'a donné l'idée de créer des modèles de masques anti-contagion. Donc voilà le modèle en question. C'est un masque complet ici. Je ne sais pas si vous pouvez le voir bien. Donc c'est cousu de deux parties. Je ne sais pas si vous pouvez bien me voir sur l'écran. Félix, est-ce que tu peux te déconnecter? Comme ça, je serai en grand sur le Jitsi. Bon, il va falloir que vous vous contentiez de cette toute petite image, malheureusement. Donc, ici, vous pouvez voir le masque complet. À gauche et à droite, il y a un morceau de tissu avec des élastiques. Et il y a en plus de ça des extensions qu'on peut nouer autour de la tête. Et construire des masques comme ça, c'est beaucoup de travail. Je compte pas en fabriquer beaucoup comme ça à la main. Donc j'essaye de faire celui-là qui est plus simple. Ça, c'est un simple morceau de tissu qu'on plie. Et il y a uniquement deux bretelles, pas d'élastique. Donc deux bretelles qu'on peut nouer autour de la tête. Il n'y a pas non plus de fil dedans, parce que la personne pour qui j'ai fait ce masque voulait pas de fil pour pincer le nez. Alors, sans ce fil rigide pour pincer le nez, c'est pas aussi agréable à porter, à mon avis. Et de devoir utiliser ces espèces de bretelles qu'on doit lasser et nouer derrière la tête, c'est pas pratique. C'est difficile d'aligner le masque correctement. Donc, une autre façon de le faire, c'est de faire ça comme les gens du Exheim, les gens qu'on a vus dans le talk précédent. On peut simplement coudre les choses sur le côté et avoir une sorte de tunnel en haut et en bas de la pièce de tissu. Et donc, vous avez une seule bretelle qui passe dans ce tunnel et vous avez un seul nœud à faire. Mais si vous mettez 10 de ces masques dans votre machine à laver, j'ai pas encore essayé, mais je pense pas que ça va bien se passer. Donc, à l'heure actuelle, je nettoie ces masques à la main. Donc, voilà le modèle qui me satisfait. Et si je clique ici, alors le VOC me dit que je dois cliquer sur une icône ici pour m'agrandir, mais je sais pas comment faire. Désolé, j'étais mute. Donc, ça, c'est le troisième modèle dont je parlais, celui qui a quatre bretelles, qui est plus facile à nouer. Il y a aussi un fil métallique rigide amovible, ainsi que un emplacement pour pour insérer un filtre qu'on peut changer. C'est très important pour quand on fait des masques en coton, d'avoir un espace pour insérer un filtre. Alors, un détail important, c'est que les bretelles du bas du masque sont plus courtes. Parce que si vous faites des bretelles du bas aussi longues que celles du haut, ça va vous pincer le nez très fort. Donc, en raccourcissant la bretelle au niveau du menton, on a un masque qui est plus ergonomique et plus agréable à porter. Et avec les bretelles comme ça, on peut tout nouer en un seul nœud. Donc, d'abord, vous appliquez le masque sur votre visage. Ensuite, vous nouez les bretelles derrière et enfin, vous ajustez le fil métallique qui sert à pincer le nez pour avoir un masque qui s'ajuste bien sur votre visage. Alors, cette version du masque est un peu trop grande pour mon visage, mais elle marche. Et elle est aussi facile à enlever et remettre répétitivement. Si vous voulez optimiser encore plus ce système, alors il y a un aspect où j'ai pas encore vu beaucoup de modèles qui faisaient ça. C'est si vous fabriquez ce masque à partir de deux morceaux, ce serait mieux si il était possible d'insérer plus d'espace pour le nez. Parce qu'en général, la forme des masques n'est pas vraiment comme un bec de canard, mais c'est important d'avoir de l'espace qui est laissé pour le nez et la bouche, tout en gardant un masque qui ferme proprement autour du nez et autour de la bouche. Parce que le problème est, si vous n'avez pas assez d'espace autour de la bouche, c'est difficile de faire un masque qui reste bien en place quand on parle, par exemple. Donc, quand j'ai regardé les masques qui étaient imprimés en 3D, moi j'aime beaucoup l'impression 3D, mais si vous avez un masque imprimé en 3D, il y a beaucoup d'espace inutilisé autour de la bouche. Et je pense que c'est un problème. Donc, je vais maintenant passer aux questions. Première question, est-ce qu'il y a une façon simple de tester le niveau de qualité d'un masque fait maison? Donc, par exemple, pour un volume d'air donné, alors un test que vous pouvez faire, c'est vous pouvez essayer de voir est-ce que vous êtes capable d'éteindre une bougie en soufflant dessus à travers votre masque. Le problème, c'est que ça vous dit pas combien de particules fines passent au travers du masque. J'ai pas moi fait de test à pousser et honnêtement je m'y connais pas assez. Ce masque-là n'est pas fait pour des applications médicales. C'est un masque qui est pour vous quand vous allez faire vos courses. C'est pas pour des médecins qui travaillent à l'hôpital. Ok, prochaine question. Est-ce que le patron est disponible en ligne? Pour l'instant non, mais je peux le mettre en ligne. Je publierai sur Twitter l'adresse du patron. Je ne sais pas quand je pourrai faire ça. Je mettrai aussi en ligne quelques photos du prochain masque que je vais faire et je publierai le tout sur Twitter. Et vous pouvez voir, vous pouvez me trouver mon profil Twitter sur le Farplan et sur le Wiki. Et sur le Wiki, il y a aussi une page pour parler de masques. Donc, vous pouvez trouver les informations dessus aussi. Il y a aussi des liens vers des patrons de masques disponibles dans le pad de questions. Donc, si vous trouvez le pad de questions et que vous êtes à la recherche de patrons, vous aurez des liens dedans. OK. Prochaine question. Comment éviter la buée sur les lunettes quand vous portez un masque? Alors, je porte des lunettes, mais rarement. Donc, c'est pas vraiment un problème auquel je me suis confronté. Je pense que si c'est quelque chose de très important, c'est déjà d'avoir un masque qui est de la bonne taille. Celui-là, par exemple, est trop grand pour mon visage. Donc, quelque chose de 1 ou 2 cm de moins serait bien. Et c'est très important d'avoir le pince-nez, ce fil métallique, qu'on peut utiliser pour pincer le nez directement. Parce que, par exemple, vous pouvez voir celui-ci, le masque à carreaux bleus, qui lui n'a pas ce fil métallique pour pincer le nez. On peut voir ici qu'il y a des espaces de chaque côté du nez, et on peut voir que l'air ressort par le haut, et c'est bien sûr de l'air humide puisqu'il sort de votre bouche, et c'est ça qui crée de la buée sur les lunettes. Alors que quand on a ce fil qui sert à pincer le nez, on peut former le masque pour qu'il s'ajuste précisément autour du contour du nez, et avec ça, on peut éviter les ouvertures, ce qui fait qu'il n'y a pas d'humidité qui sort par le haut vers les lunettes. C'est aussi important, pas que pour la buée sur les lunettes, mais aussi bien sûr pour éviter la contamination. Si vous avez un masque qui s'adapte bien sur votre visage, je pense que ça devrait marcher sans trop de problème avec des lunettes. Mais comme moi, je porte des lunettes couramment, je suis pas sûr. Vous pouvez aussi peut-être utiliser des stratégies qui sont utilisées par les plongeurs sur leurs lunettes de plongée, sur leurs lunettes en dessous des masques de plongée. mais je m'y connais pas vraiment. Alors, dans le pad de questions, il y a des gens qui maintenant sont en train de discuter carrément. Ils ont posté des liens de patrons de masse. Donc, merci d'avoir fait ça. Et je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci à tous les gens qui sont sur le pad en train d'échanger des informations. Merci de faire ça et de partager ce que vous savez, les liens que vous avez. Et je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Nous pouvons donc passer à, j'espère que j'ai pas raté de questions. Et j'espère que cette présentation était utile et que le prochain présentateur est en ligne. Clemens et quelqu'un d'autre. Clemens, es-tu là? Bonjour. Merci. J'espère que vous pouvez m'entendre. Je représente une station spatiale collective et nous sommes ici pour parler du City Forum qui n'aura pas lieu cette année en personne, bien sûr, puisque les rassemblements ne sont pas possibles. Donc voici l'affiche de notre événement. La conférence s'appelle Le droit à la ville. Cette présentation devait se passer en personne, mais n'aura pas lieu en personne, bien sûr, à cause des restrictions. Nous sommes donc à la recherche de gens qui peuvent nous aider à organiser cette conférence. Le réseau Recht auf Stadt, le réseau du droit à la ville, est un réseau d'initiatives locales qui s'intéressent à pouvoir construire des villes pour tous. On est représenté dans beaucoup de grandes villes allemandes. On a des initiatives qui sont parfois connues comme Friedrichslore à Hambourg, ainsi que d'autres initiatives. Alors, le constat qu'on a fait, c'est que la ville néolibérale moderne a échoué. Les citoyens de ces villes sont confrontés à des loyers qui augmentent sans cesse. On a des villes qui sont construites sur la ségrégation. Et on voudrait, nous, se battre pour une ville qui appartienne à tout le monde. Donc, c'est ça qu'on va dire par le droit à la ville. C'est notre slogan, notre devise. On est basé sur les idées du philosophe André Fellefreur, un philosophe allemand qui a parlé de ces problématiques. L'idée étant que la valeur d'une ville est plus que la valeur marchande des biens dans cette ville. Si on n'applique pas cette méthodologie, les gens vont perdre l'espace dans lequel ils peuvent vivre, et les gens perdent déjà l'espace dans lequel ils peuvent vivre. Et c'est pour ça donc que nous avons ce forum. C'est la 6e édition. On a ce forum qui se produit de façon plus ou moins régulière depuis 2011. C'est donc la 6e édition cette année en 2020. Ça devait avoir lieu dans la ville de Weimar en Allemagne, mais cela va être maintenant décentralisé et en ligne. Et organisé quand même par le même comité. Donc, vous pouvez trouver des informations sur notre site web que vous voyez ici. On a plus d'informations sur les thèmes abordés, comment est-ce que les choses changent. À l'origine, notre but était d'établir des connexions avec différentes autres organisations qui parlaient d'écologie, de justice sociale. Mais avec la crise du coronavirus, on a d'autres thématiques à aborder. On veut avoir une connexion entre tous les acteurs de la vie démocratique en ville. Et le problème maintenant n'est pas simplement une question d'espace de vie, et d'immigration, mais c'est aussi un problème de santé publique dont on veut parler. Alors, le problème qu'on a, c'est que la plupart des gens dans notre organisation sont des gens qui ne travaillent pas en ligne en général. Et donc, pour nous, c'est quelque chose de très nouveau d'organiser ou même de participer à une conférence centralisée comme Divoc. On trouve que Divoc est absolument incroyable et c'est vraiment cool que vous ayez fait ça. Et donc, on aimerait bien pouvoir mettre en place un système similaire pour avoir nos workshops, nos conférences, des espaces d'échange d'idées, des espaces d'information. Et donc pour ça, on lance un appel à l'aide. Si il y a des gens qui écoutent cette conférence, qui ont participé à organiser quelque chose comme ça, ou qui ont un intérêt, qui s'intéressent à l'organisation de projets comme cette conférence-ci, que ce soit pour le CCC ou pour autre chose, on serait vraiment enchanté d'avoir votre aide, parce que c'est un sujet qui ne nous est pas très familier. Nous avons un canal sur Riot pour l'organisation qui est déjà établi. Donc, vous pouvez nous contacter via Riot. Je vais mettre le lien dans le pad pour les questions que vous pouvez trouver sur le Farplan. Donc, j'ai partagé le lien maintenant sur ce pad. Et donc, il y a maintenant des questions dans le pad également. Et la première question est, est-ce qu'on a des liens avec l'initiative Transition Town? Alors, oui et non. On a des travaux plutôt parallèles à ce qu'ils font. Bien sûr, il y a une certaine intersection. On a notamment beaucoup de contributeurs qui sont à la fois dans l'organisation du droit à la ville et l'organisation Transition Town. Mais ce sont deux initiatives différentes parce que eux s'intéressent essentiellement à des questions environnementales et choses comme ça, et nous plus à des questions de société et de justice sociale. Alors, ce serait vraiment cool si vous avez si vous savez organiser des conférences comme ça, ce serait vraiment cool d'avoir votre aide pour organiser une conférence comme le Divoc en ligne. Parce que c'est quelque chose de très important pour nous d'avoir une conférence qui soit accessible à tous. On a des valeurs qui sont similaires à celles du CCC, je pense. On voudrait éviter de se baser sur des plateformes de géants technologiques californiens. Au contraire, on voudrait plutôt supporter les logiciels libres et les initiatives décentralisées. On a pas beaucoup de budget pour ça, mais et donc c'est pour ça que ce serait vraiment cool de pouvoir organiser quelque chose comme ça. Mais un des challenges, un des défis qu'il y a par rapport au contexte du CCC, c'est que dans le CCC, il y a énormément de gens qui sont très techniques. Dans notre organisation, nous, beaucoup moins. Les gens sont pas forcément très aptes aux choses techniques avancées. Et ça, c'est valable non seulement pour les organisateurs, mais aussi pour nos participants. Donc, on pense qu'il y aura pas mal de boulot pour rendre la conférence accessible, comment dire aux gens comment nous rejoindre et comment contribuer, y compris pour des gens qui participent pour la première fois. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Ok, merci beaucoup. Et le lien vers le site web est dans le pad. C'est super, merci. Merci d'avoir participé et d'avoir présenté ton initiative. J'espère que ça t'a permis d'essayer des choses et de rencontrer des gens qui pourront aider ta conférence à se réaliser. Merci beaucoup pour cette opportunité de présenter notre travail et j'espère vous voir pendant notre conférence Le droit à la ville. Nous sommes donc maintenant à la fin des Lightning Talks. Il reste une dizaine de minutes avant la prochaine conférence. Nous sommes parfaitement dans les temps. La prochaine conférence de DIVOC sera Digitale Abgründe in der Kommunalpolitik, Pitfalls of Local Politics, les problèmes à éviter dans la politique locale. Cette conférence ne sera pas traduite en français, malheureusement. Je vous retrouverai pour les traductions en français à 18h pour Covadis Geschichtserkennung, la reconnaissance faciale Quad 9. Merci à tous et bon DIVOC.
Automatically?
I have no idea.